Bonjour, bienvenue dans On se fait des films, l'émission qui emmène le cinéma et la vie faire la fête avec des amis. Aujourd'hui, deuxième partie de la vie et de la filmographie d'un gentleman acteur qui n'avait peur que d'une chose, l'oubli. Égéri de la nouvelle vague, il devint un second rôle qui savait imprimer une étrange autorité ou une réelle cocasserie dans tous ses rôles. Impossible, en effet, d'oublier Brialy.
Guillemette Audicino, on se fait des films sur France Inter.
Hier, Éric Rohmer, avec lequel il tourna Le genou de Claire, disait de Jean-Claude Brialy qu'il était un acteur shakespearien. Hier, nous avons raconté comment il débuta et devint surtout l'acteur fétiche de la Nouvelle Vague avec Le Beau Serge et Les Cousins. Et Chérivette aussi, dans Paris nous appartient.
Enfin, tout ça ne vaut pas Shakespeare.
Oh, tu sais Shakespeare, on en reparlera après l'examen.
C'est quand déjà?
Après-demain. Je te retarde pas?
Ça va, j'ai encore un quart d'heure.
Alors, quelle est ta journée?
Eh ben, il faut d'abord que je voie un type à la télé. Mmh. Un producteur qui fait des émissions publicitaires. Mmh. À 5h, j'ai une audition avec Boileau et puis avant, il faut que je passe voir Gérard Lenz.
Gérard Lenz?
Tu le connais?
Non. Qu'est-ce qu'il fait?
Oh, il a fondé une jeune compagnie pour jouer Périclès de Shakespeare, justement. Je me suis laissé embringuer et puis maintenant, je sais plus comment m'en sortir.
T'as autre chose?
Encore rien de précis, 2 ou 3 combines, je te dis, mais de toute façon, j'ai envie de laisser tomber.
Tu parles. Jean-Claude ne laissa jamais tomber, ni les rôles, ni ses amis. L'homme était fidèle, l'homme était joueur. Il voulait exister dans le cœur de ses copines Jeanne Moreau ou Marlène Dietrich, comme dans celui de la boulangère, à laquelle il souriait, comme si elle était aussi une star. Brialy était insatiable, quitte à s'éparpiller, papillonner. Et alors, la vie n'est pas un manuel d'économie.
Alors admettons que Jean-Claude Brialy soit critique d'un personnage qui s'appelle Jean-Claude Brialy. Qu'y a-t-il à en dire?
Beaucoup de choses. Moi, je dirais qu'il est agaçant. C'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure.
Je ne l'ai pas dit, c'est vous.
Que je me disperse un peu, que j'ai l'impression qu'on me voit partout et nulle part en même temps. Qu'il manque de temps en temps d'un peu de repos, d'absence, qu'il faut savoir se faire rare. Que j'ai tendance à bavarder trop, à parler trop, à me montrer trop. Mais c'est une façon d'exister, peut-être aussi.
C'est une façon aussi de montrer que l'on a peur.
Peur, pas vraiment peur, mais par exemple, je veux dire, j'ai une maison à la campagne, on me dit, tu ne vas pas souvent, parce que moi, la campagne m'angoisse. J'aime aller au printemps ou l'été parce qu'il fait beau, mais l'hiver, quand il pleut, je ne suis pas quelqu'un qui marche sous la pluie avec son chien, le nez au vent. Je suis dans un grenier en train de feuilleter des vieux papiers, je garde tout, ou relire des lettres, ou regarder des photos. J'ai aussi la nostalgie du passé, c'est vrai.
La nostalgie, parlons-en. S'il y a 2 personnes de sa famille qu'il aima, ce ne fut pas ses parents, mais ses grands-parents paternels, qui l'accueillaient enfant dans leur maison en Anjou. Sa grand-mère, la grâce et la bonté incarnée, était morte en 1954. Son grand-père, le seul à lui avoir envoyé un peu d'argent à Paris, quand il avait vu le nom de son petit-fils dans le journal pour son tout premier rôle, était décédé 3 ans plus tard. Leur petite maison à Chamblay, ce petit village d'Anjou, fut mis en vente. Et Brialy regretta toute sa vie de ne pas l'avoir racheté. Des années plus tard, il en acheta une autre, par amour pour ce village. Et c'est dans le même esprit qu'il décide en 1970 de réaliser son premier film, Églantine. Faire revivre cette enfance heureuse, cette enfance de vacances, et faire revivre ses grands-parents. Mais en choisissant, avec pudeur, de déplacer l'action au 19e siècle. Il coécrit le scénario avec l'écrivain Éric Olivier et l'envoie, annoté par François Truffaut lui-même, à la grande comédienne Valentine Tessier. Dans Églantine, elle joue donc sa grand-mère, habillée avec des costumes créés par un grand ami de Brialy, excusez du peu, le costumier de Visconti. Il réalise ensuite Les volets clos sur Les filles de joie, dont la chanson devient célèbre. Avec pour seul regret le refus d'Arletty d'y participer. Arletty avec laquelle il déjeuna une fois par semaine pendant 30 ans chez elle, et c'est lui qui apportait le panier pique-nique. Puis, dans L'Oiseau rare, il dirige à la fois Jacqueline Maillan et Barbara. Mais il rêve aussi de réaliser un film pour son amie, sa sœur, l'une des femmes qu'il a le plus aimée, Romy Schneider. Il lui écrit alors un amour de pluie, un mélodrame sur une mère qui accompagne sa fille de 15 ans en cure à Vittel et tombe amoureuse d'un jeune homme.
Quel est votre prénom ?
Je vous remercie.
Pourquoi ?
Je ne savais pas comment vous parler, vous l'avez fait à ma place.
Je vous ai parlé ?
Oui.
Oh. Vous êtes sûr ?
Ben, à peu près sûr, oui.
Qu'est-ce que je vous ai dit ?
Quel est votre prénom ?
Elisabeth. Quelque chose ne va pas ?
Ça va.
Vous voulez boire ?
Non, non.
C'est pas une raison de vous troubler parce qu'une femme vous demande quel est votre prénom.
Giovanni.
Au début du tournage, Romy Schneider est triste et ronchonne. En fait, elle vit un chagrin d'amour. Un acteur célèbre lui a promis de quitter son épouse pour elle. Et puis non, il lui a menti. Soutenue par Briali, elle finit par rire. Mais le réalisateur ami a des nuits très courtes, car il se lève tôt pour préparer les prises, tout en se couchant tard, car Romy a besoin de parler jusqu'à 3h du matin.
C'est un pont perdu sur l'Atlantique, c'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers, c'est fantastique. Je pourrais te montrer, pour y aller c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà, bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris, et ce n'est pas Londres, ce n'est pas Berlin. Ce n'est pas Berlin, ce n'est pas Hong Kong.
pas Tokyo. Il fait si chaud. Je t'emmène sur la baie.
La baie, Clara Luciani.
Guillemette Odissino. On se fait des films sur France Inter.
Sur France Inter, on continue à se faire des films avec Jean-Claude Brialy, qui vient d'en réaliser pratiquement 3 d'affilée, dont un avec Romy. Jean-Claude savait écouter. Il savait aussi parler de cette voix chaude, légèrement aristocratique. Et on se demande qui d'autre aurait pu être le narrateur, en VF, d'un aussi grand film d'époque que Barry Lyndon de Stanley Kubrick.
Le père de Barry, comme tant d'autres garçons nés dans une famille de la bonne bourgeoisie, avait été élevé pour faire un homme de loi. Il ne fait aucun doute qu'il eût occupé une place éminente dans cette profession s'il n'avait été tué dans un duel. Duel qui eut pour origine une vulgaire affaire de vente de chevaux. Après la mort de son époux, la mère de Barry vécut une vie qui ne put en rien donner prise à la médisance. Plus d'un homme qui avait séduit ses charmes lorsqu'elle était jeune fille tenta de nouveau sa chance lorsqu'elle se trouva veuve. Mais elle déclina toutes les offres de mariage, déclarant qu'elle ne vivrait désormais que pour son fils et pour la sainte mémoire d'un mari passé dans l'autre monde.
Jean-Claude Brialy peut passer pour un homme d'un autre siècle, ou plutôt pour un éternel jeune homme d'un autre siècle. De ces jeunes hommes qui écoutent les conseils de leurs aînés et savent les mettre en application.
Je reproche un petit peu aux garçons et aux filles qui viennent me voir pour me demander des conseils. Je ne donne aucun conseil parce que je leur dis, mais on ne peut pas donner de conseils. Vous avez du talent, vous n'en avez pas. Vous avez la présence, vous n'avez pas de présence. Et ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui est transparent à la vie, je ne vois pas pourquoi il serait présent à la scène. Donc je déteste les auditions, je déteste tout ça. Mais je leur dis, soyez curieux. Et chacun de vous a des rencontres dans la vie, mais il faut en profiter. Vous l'avez dit tout à l'heure, Cocteau me disait, laisse toujours ta porte entrouverte, la jeunesse peut s'y glisser, méfie-toi des courants d'air, on se retrouve très vite tout seul. Ben, c'est vrai, j'ai toujours laissé ma porte entrouverte, c'est toujours, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé les gens qui passaient, je les ai suivis quelquefois, je me suis trompé souvent, mais quelquefois j'ai eu le bonheur de ne pas me tromper.
Laisser sa porte entrouverte, c'est bien beau. Mais celle de Brialy attirait tout de même les plus grandes intelligences. Il apprend ainsi que Louise Buñuel veut tourner avec lui. Lors de leur première entrevue, le maître, comme à son habitude, coupe court à la conversation. « Je vous ai choisi pour le Fantôme de la Liberté, voilà, c'était inutile de nous rencontrer avant le tournage. Rendez-vous tel jour sur le plateau à Boulogne-Billancourt. » Brialy sait à peine qu'il doit être dans un lit avec une actrice et rêver d'autruche. Le jour J, le voilà donc tout couché à côté de sa partenaire, avec Buñuel qui ne donne aucune explication. Brialy ferme un moment les yeux. Quand il les rouvre, il découvre de vraies autruches qui passent sur le lit. Il devra refaire cette scène plusieurs fois, car Buñuel décide de changer plusieurs fois sa partenaire. Monica Vitti sera finalement la bonne, et Jean-Claude, qui prend toujours les choses du bon côté, finira par rire de tous ses contretemps. Au moins, il aura eu le temps de sympathiser avec les autruches. Le Fantôme de la Liberté reste un film toujours aussi hallucinant, où Buñuel se joue des convenances sociales et bourgeoises, avec par exemple des convives assis ensemble sur des cuvettes de WC, et qui se termine justement sur un gros plan d'autruche.
Tu te racontes ?
C'est dégoûtant, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?
J'avoue, je ne sais plus comment m'y prendre. Et pourtant, je ne peux pas la surveiller à chaque instant.
Viens voir. Tu te souviens ? C'était à Milan.
Oui.
Chez tes parents, chez toi.
Oui. Nous étions trop jeunes encore.
Pourtant, c'était magnifique. Et toi qui ne voulais pas te...
Tchut. Véronique va nous entendre.
C'est invraisemblable.
Oh.
C'est répugnant.
Oh. Ça, c'est dégueulasse.
Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est notre époque, ça.
Oh.
Prends celle-là, à la rigueur, hein.
Ça,
c'est obscène, ça. Non, ça, tu vois, peut-être pour les barbus, mais pas pour moi. Ah, ça, non, tout de même.
Fais voir.
Non. À quoi bon?
Pourquoi pas?
Non.
Mais si, mais laisse-moi voir. Tu as raison. Ça, vraiment, c'est trop fort.
Appelle la bonne.
Oui. Françoise? Françoise?
Oui, madame.
Écoute, je crois que je ne dînerai pas ce soir. Je vais me coucher de bonne heure.
Tu devrais voir un médecin. J'insiste.
Tiens, je te les rends, tu peux les garder si tu veux.
Merci, papa. Je peux les échanger contre des images d'araignées?
Oui, ouais. Si tu veux, va.
Madame désire quelque chose?
Étant donné ce qui vient de se passer aujourd'hui, je crois qu'il vaut mieux que vous quittiez la maison.
Mais monsieur, moi je ne suis pour rien. Je ne savais pas.
Écoutez,
que...
je n'ai pas envie de discuter en ce moment. Arrangez-vous avec ma femme et disparaissez.
Est-ce à cause de sa trop grande curiosité qui le fait courir à droite, à gauche, ou de ses succès au théâtre qui dévore une partie de son temps, ou encore de ce choix soudain de passer derrière la caméra au début des années 70, alors qu'il venait pourtant d'avoir un premier rôle éclatant dans Le Genou de Claire de Romère? Mais disons-le, Brialy n'aura plus jamais de vrai grand premier rôle.
On n'aime pas les premiers, de toute manière, on n'aime que les seconds.
On n'aime que les seconds, il n'y a qu'en Amérique qu'on aime les premiers. Mais moi, j'aime la France, alors je resterai. Même si je dois rester second, je vivrai comme un premier.
Alors attention, Jean-Claude Brialy, on vous aime beaucoup. Seriez-vous second?
Oui.
Oui. Bah, je le vois.
Bah, je veux dire, si c'est dans l'œil, là. Si c'est derrière Gabin, Belmondo et Delon, je veux bien être second.
Ce qui n'empêche pas ce subtil Poulidor de marquer les esprits dans tous ses seconds rôles. Surtout quand il s'agit d'aussi grands films que Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, où il est second derrière Philippe Noiret. Mais la veille du début du tournage, Brialy trouva ce petit mot dans sa chambre d'hôtel. Je suis fier de tourner avec toi, signé Philippe Noiret. Superbe rôle que celui du procureur Villedieu, en proie au doute, nostalgique de l'Indochine, et d'un cynisme politique qui confine à une lucidité et une mélancolie des plus tragiques.
Ah, ce sont des caillettes.
Caillettes aux herbes. Spécialité de chez nous, oui.
Je viens de lire chez un auteur qui n'est pas de nos amis.
Zola.
Non, Mirbeau.
Ça ne vaut guère mieux.
Il dit des choses très intéressantes sur la notion de meurtre. Vous permettez?
Je vous en prie, excusez-moi.
Pardon. Il dit que nous sommes tous des meurtriers, au moins en puissance. Mmh. Et ce besoin de meurtre, nous le canalisons par des moyens légaux. L'industrie, le commerce colonial, la guerre, l'antisémitisme. Moi, j'ai choisi l'antisémitisme. D'abord parce que ce n'est pas dangereux, c'est à la mode, et puis c'est béni par l'Église.
Oh, quel splendide bouquet.
Pardon.
Merci. C'est votre boy qui l'a apporté, il a l'air bien gentil.
Oui, je ne crains qu'une chose, c'est qu'on me l'enlève ou qu'il se marie.
Vous savez, avec les bonnes, c'est pareil. On les forme, elles s'en vont et c'est leur mari qui en profite. Asseyez-vous, je vous en prie.
Pardon. Ah, un homme de couleur, ça n'est pas dit qu'il trouverait facilement à se marier dans la région.
Hein? Ah, Dieu vous entende, je ne pourrais plus me passer de lui.
Vous l'avez eu tout jeune?
C'est étonnant, après mon arrivée à Saïgon, j'avais obtenu la peine de mort pour son frère, oui. Une brute épaisse. Et pour lui, qui n'était pas encore majeur, 5 ans de prison qui n'ont pas été trop désagréables, puisque je l'ai pris chez moi comme cuisinier. Merci.
Oh, vous n'avez pas eu peur qu'il vous empoisonne?
Oh, non. Oui, j'avais obtenu qu'il devienne chrétien. Oui, baptême, première communion solennelle à la cathédrale, cérémonie très émouvante. Naturellement, tous les samedis, il se confessait, et le curé me tenait au courant de ses progrès. Quand j'ai dû donner ma démission à la magistrature, comme vous le savez, et quitter la Cochinchine, j'ai senti qu'il me manquerait et je l'ai emmené avec moi. J'espère qu'il m'aidera à m'adapter.
Mais vous verrez, l'atmosphère de la mère patrie.
Chère madame, je suis bien vieux pour retourner vivre chez ma mère.
De grands cinéastes l'appellent dans leurs univers si différents les uns des autres. Ainsi, André Téchiné, celui par lequel il aura enfin droit à la reconnaissance, avec un César pour Les Innocents, dans plusieurs années. Mais pour le moment, nous sommes en 1976, et c'est Barocco. Polar expressionniste, d'une fulgurante beauté, sur un boxeur, incarné par Depardieu, son assassin, incarné par Depardieu, et une femme amoureuse, Isabelle Adjani. Dans ce film qui fit un bide à sa sortie et qui fascine tout le monde aujourd'hui, Brialy est un directeur de journal corrompu et c'est à cause de lui que tout arrive. Deus ex machina. Encore un rôle secondaire mais essentiel.
Alors regardez Antoinette, le bateau est arrivé aujourd'hui, il est beau, hein. Il repart dimanche. Je suis épuisé, j'ai besoin de vacances. Achetez-moi un billet.
Un seul.
Ah oui, il faut que je passe à la télévision aussi.
Vous avez oublié ça?
Quoi?
Encore votre testament, passez votre vie à le rédiger, le corriger, le refaire et à l'oublier.
Occupez-vous de votre travail, Antoinette. Laissez ma vie tranquille.
Monsieur le directeur!
Quoi?
Maintenant, mon travail me dégoûte. Offrir de l'argent à ce boxeur pour faire l'interview, c'est une honte.
On a payé ce boxeur?
Oui, pour qu'il accepte de faire l'interview, de poser pour les photos. Je pensais que c'était votre décision, je laissais faire.
Alors vous étiez présente à la séance de photos, vous connaissiez tout le monde?
Oui.
Mais qu'est-ce qui a payé ce boxeur?
Le propriétaire du ring, de l'endroit que nous avons loué pour faire les photos.
Je ne connais pas ce type, moi.
Hein? Je croyais.
Enfin, Antoinette, vous connaissez tous les gens que je connais?
Oh non.
My heart, my consistency were lost when reality proved I was awfully misty.
Canine, Saturday.
France Inter. On se fait des films. Guillemette Odissino.
Nous sommes sur France Inter en compagnie de Jean-Claude Brialy. Sur le tournage de Barocco d'André Téchiné, Brialy devient ami avec Isabelle Adjani, qu'il admire depuis qu'il l'a découverte à la télé dans Faustine et le bel été de Nina Companese. C'est même lui qui avait parlé de la jeune actrice à François Truffaut. Sur Barocco, il devient son confident. À l'époque, Isabelle vit avec André Dussolier. Et quand ils se séparent, c'est à Montyon, dans le château de Jean-Claude, qu'Adjani se réfugie pour réfléchir. Jean-Claude retrouve Romy à l'écran en 1980. La banquière de Francis Giraud sera leur dernier film ensemble. L'histoire d'une femme dans le Paris des années 20 puis 30, fille d'un chapelier juif qui fume en public, couche avec des femmes et se construit un empire toute seule face aux géants de la bourse. Inspiré de la vie de Marthe Hanot, ce personnage fier est porté par une Romy butée et radieuse, même si sur le tournage elle est très fragile. Et Brialy incarne son fidèle avocat.
Vous allez avoir du tintouin avec ce danseur.
Je le calmerai. C'est un ami.
Ah, et vos amis ? Vous n'allez quand même pas le présenter aux élections ?
On y pense.
Ça ? Vous voyez ça en député ?
Je l'espère.
Quelle tristesse.
Eh ben, dites donc. Le danseur, je suis du sentiment du président. Il a pas de manière.
Romy, donc, qui a besoin de Jean-Claude hein, chaque fois qu'elle a besoin d'un confident ou d'un abri. C'est ainsi, par exemple, hein, qu'elle fêtera son mariage avec Daniel Biasini, son deuxième mari, à l'Orangerie, le restaurant de Brialy. En 1966, en effet, le comédien a acheté un ancien bistrot de l'île Saint-Louis qu'il a fait transformer en restaurant chic et cosy, qui verra défiler, en toute discrétion et sans que jamais une seule photo ne soit prise à l'intérieur, un grand nombre d'artistes français et étrangers.
Je dis, je ne suis pas restaurateur parce que je ne sais ni faire la cuisine, ni m'occuper d'un restaurant. Donc je ne suis pas restaurateur, mais j'ai un restaurant parce qu'il y a 12 ans, j'ai fait ce restaurant avec deux amis. Un qui, lui, était de la partie, qui vivait avec une danseuse amie à moi. Bon. Et parce que j'ai joué les pièces au théâtre très souvent, très longtemps. 500 fois l'une, 600 fois l'autre. Et quand tous les soirs, pendant 600 fois, vous demandez, quand on est célibataire, où est-ce que je vais aller dîner ce soir ?
Chez moi.
Je me suis fait un restaurant égoïstement pour pouvoir dire je vais aller chez moi dans un endroit qui est beau, où on y mange bien, c'est calme, on n'a pas la tête comme un melon, on n'a pas de musique qui vous braille dans les yeux, on n'a pas de néon sur les yeux, et on y voit des jolies femmes et des copains, et c'est très agréable.
Des copains et des copines. Alors, quelques noms des fidèles clients pour la bonne bouche. Marlène Dietrich, qui venait n'y manger que des crudités. Maria Callas, dînant avec Visconti. La duchesse de Windsor, un vendredi par mois. Grâce de Monaco avec le prince Rainier. Ou encore Yves Saint-Laurent ou Liza Minnelli. À chaque réveillon de la Saint-Sylvestre, Brialy y organisait une soirée pour tous ses amis sans famille. Un soir, à minuit, au moment où tout le monde s'embrasse, la porte du restaurant s'ouvre. Anouk Aimée, venue à l'improviste avec quatre de ses amis qu'elle présente à Jean-Claude. Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Jack Nicholson et Robert De Niro. Nous, quand on s'incruste à un réveillon, on s'incruste avec notre cousine Charlotte de Clermont-Ferrand, c'est toute la différence. Puisque nous sommes au rayon international, passons à un grand italien, Ettore Scola. Dans ses mémoires, Brialy raconte que l'idée de mettre en scène la fuite de Marie-Antoinette à Varennes vient de lui. Il voulait en faire un film avec Romy dans le rôle de l'Autrichienne. Et puis le grand producteur Daniel Toscan-Duplantier, emballé par l'idée, chercha de son côté un metteur en scène plus qualifié que Brialy pour porter cette histoire à l'écran. C'était Ettore Scola, donc, qui accepta. Avec élégance, il appelle Briali pour le prévenir et puis lui propose un rôle. Jacob, le coiffeur de la reine, un homosexuel excentrique et tragique. Briali, ravi, accepte jusqu'au moment où il découvre, en lisant le scénario, que son rôle est totalement muet. Une silhouette omniprésente, certes, mais tel un fantôme. Qu'aura-t-il donc à jouer ? Quand il s'en inquiète auprès de Scola, celui-ci le rassure. Il construira son personnage pendant le tournage. Et ce fut fait, au point que cela resta pour Briali l'une de ses plus belles expériences de comédien, car en fin de compte, Jacob le coiffeur est un superbe exemple de second rôle. Léger et pesant à la fois, burlesque et pathétique. Même Elia Kazan envoya une lettre à Briali pour le féliciter de sa composition.
Madame, comme c'est étrange. Ils sont passés ici il y a 2 heures au lieu de 5. Ils étaient seuls. Il paraît qu'à Pont-Sonnevel, le duc de Choiseul et ses 40 hussards sont partis un quart d'heure avant que le carrosse soit passé.
Sans l'attendre, mais à partir de Châlons, ça devait être la partie la plus sûre du voyage. À chaque relais, de plus en plus de soldats. Que s'est-il passé ?
On ne sait pas, madame, on ne sait rien. Bon, je vais aux nouvelles.
On se souvient tous également de son rôle de Jean-François Rambert, de la police des polices. Censé surveiller l'enquête de son collègue et rival, le commissaire Griffon, incarné par Claude Brasseur, dans La Crime de Philippe Labro.
Je te dérange ? Ça sent la frite.
Tu viens pourquoi au juste?
Et c'est ton vieux inspecteur, là, comment il s'appelle, le pied noir?
Gomez.
C'est ça, Gomez. Il a logé la fille de la photo, Suzanne Thompson, qui se fait appeler Suzy D'Annunzio. Putain, depuis 4 ans, mais la classe. Acapulco, Los Angeles, Washington. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Elle a retiré les voitures depuis 6 mois. Duplex, boulevard Suchet, c'est le père d'Alain qui paye sa note et beaucoup d'autres choses. Ah. Regardez ça. C'est bien. Ça date de quand, ça? C'est Belle-Île, non?
Non, l'île de Ré.
Ah, c'est ça, l'île de Ré. Et moi, le rugbyman égorgé, on n'a pas de nouvelles depuis tout à l'heure?
Non.
Ah, c'est emmerdant pour toi, ça. Formateur qui se fait couper le kiki. C'est pas lui qui avait parlé du contrat contre le père d'Alain? C'est ça, non?
Demande à tes supérieurs, Jean-François.
Partage avec moi une de tes fameuses bières belges.
Non.
Tu es sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui brûle là-bas?
Si. Mon dîner.
Il y avait chez Briali comme une autorité naturelle, qui pouvait même devenir cassante, effrayante quand il le décidait. Comme dans cet OVNI de 1983, que l'on avait tous vu à la télé, cette rareté aujourd'hui introuvable, mais que nous avons trouvée, que dis-je, qu'une auditrice nous a offert sur un plateau. Merci, chère Marie-Laure. Le démon dans l'île de Francis Leroy, en 1983, qui reçut le prix du suspense au Festival d'Avoriaz. Face à Annie Dupéré, Briali est vraiment démoniaque. Vraiment démoniaque.
Un enfant écrasé par une moissonneuse batteuse, quelques asphyxiés, brûlures, noyades, pas mal de noyades forcément, et puis 6 accidents avec des tondeuses à gazon, des intoxications, enfin le lot habituel quoi. Ça ne vous intéresse pas?
Si, si.
Traumatisme crânien, 12 depuis 76. Chute, coup de pelle, une énucléation sur un râteau, un enfant de 3 ans. Beaucoup de jambes et de bras cassés. Surtout sur les rochers. Et pas un seul accident de la route. Ça va vous changer les autoroutes, non?
Des autoroutes.
Vous n'étiez pas médecin sur les autoroutes?
Si. Comment le savez-vous?
Je suis bien renseigné.
Pourtant, l'homme est plutôt de nature souriante. Même si être catalogué, ça commence un peu à l'agacer.
Mais d'abord parce que je voudrais retrouver au cinéma des rôles que, comme j'en ai eu, et avec qui vont maintenant avec mon âge, et puis de trouver des personnages un peu plus profonds, un peu plus graves et un peu plus humains, parce que j'ai toujours joué des caricatures. Oui. J'ai toujours joué des personnages qui étaient des gens qui avaient des Rolls-Royce, des gilets, des montres, la pluie ne les mouillait pas, ils avaient une femme très belle, deux, trois maîtresses.
Vous les recherchiez un peu, ces rôles?
Pas du tout. Vous savez, on vous met des étiquettes dès le début de carrière. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on dit non, je vais attendre. Alors, vous attendez 10 ans et puis on vous oublie. Vous savez, non, mais on... Mais enfin, j'en ai tourné, je vais en tourner d'autres. Et puis, je suis quelqu'un d'optimiste. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Ça énerve aussi beaucoup, ça, le bonheur. Oui. Vous savez, quand
vous êtes amoureuse.
Quand on arrive quelque part et qu'on sourit, on vous trouve suspect.
Heureusement, il y a toujours des cinéastes délicats, comme Claude Miller, pour lui offrir des rôles subtils et humains, comme il dit. Ainsi, le rôle de Sam, l'impresario de Clara, la superbe petite pianiste qui fascine Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté. Et c'est lui, d'ailleurs, qui lui remit son César du meilleur espoir féminin, ce soir que personne n'a oublié, où elle sanglotait de bonheur en regardant son père, Gainsbourg, dans la salle, qui pleurait aussi. Écoutez Brialy, dans le rôle de Sam, une telle gourmandise, un tel plaisir à s'inventer une gouaille, un tantinet ringarde.
Oh ben c'est vrai, on ne s'est pas présenté. Je m'appelle Sam. C'est moi qui organise les concerts de Clara. Je suis son manager, si vous aimez mieux. Oui, avant, j'étais dans la variété. Alors, le niveau, je vous dis pas. Vraiment, pas de gamme. Il m'appelait Fruit of the... C'est-à-dire Fruit of the Loom. À cause de mes t-shirts. Oui, le genre. Ici, avec Bowman, c'est du sérieux. Je découvre. T'as que celui-là, là-bas. Le sbire aux dents longues, je peux pas le blairer. C'est le seul point noir au tableau. C'est le comédon. Hein? Alors, tout le monde est là? Rien n'est cassé? Ah, ma chérie, tu as été magnifique! Magnifique!
Oh là là, ça m'enlève tout de suite ces lunettes ridicules!
Oh, des lunettes à 1000 balles, il faut pas pousser. Alors, Franck, pour les tempos...
Les tempis!
Oui, enfin, les tempis. Alors, pour contrôler les tempis, très bien. Mais pour faire du bateau, vous êtes nul, hein? Clara vous a encore enfoncé!
Dépêchons-nous, Clara. Nous n'avons pas encore travaillé aujourd'hui.
Oh, mais laissez-le tranquille, c'est une enfant. Faut bien qu'elle prenne l'air.
Très bien. Nous avons un concert le 9. Je m'en fous! Je m'en fous, je m'en fous! Je m'en lave les doigts!
J'arrive, Franck! Je vais travailler, c'est promis!
Vous avez dit plaisir de jouer? Avec Chabrol, Brialy était comme à la maison. Chacha, il l'aimait, le respectait, depuis les origines de sa carrière. Et sur le tournage à Dinan, d'inspecteur Lavardin, ça rigole sévère. Et ça mange aussi, car Jean Poiré a un aussi beau coup de fourchette que le réalisateur. Dès le petit déjeuner où Brialy avale, lui, juste un café, les deux autres lurons discutent du dîner à venir. Tête de veau vinaigrette, moule à la crème, andouillette. Et puis, Brialy retrouve aussi sa grande copine de Nouvelle Vague, Bernadette Lafont, pour ce film policier si gourmand.
Tu viens?
Quand je pense que tu ne m'as pas épousée, et que je te retrouve pour chercher l'assassin de ton mari.
Mon deuxième mari.
De ton deuxième?
Le père de ma fille est mort, lui aussi.
Ah, dis donc, je l'ai échappé belle, si je comprends bien.
Non, 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 mes sens ne m'ont point abusé, Dieu est-ce possible. Mon passé qui me monte à la gorge.
Il est encore là, celui-ci?
Embrasse-moi, mon cher complice. Oh là 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 là, ce que t'as vieilli, mais c'est épouvantable. J'ai cru voir ton père.
En revanche, toi, je te trouve particulièrement bien conservé, vois-tu, pour ton âge.
Oui, c'est que la vie m'a passablement épargné et grâce à ma sœur chérie, je risque d'atteindre le demi-siècle comme un jeune homme.
Parce que tu le traînes toujours avec toi?
Ah ben, c'est que je me suis farci ces deux mariages, ces deux veuvages.
Ah, finalement, il n'y a que trois choses qui comptent pour moi. C'est elle,
ma nièce.
Alors tu as une fille, et moi qui en voulais une aussi. Tu te souviens, je lui avais même trouvé un prénom.
C'est comme ça que j'ai appelé la mienne.
On passe sur la comédie, sur la tolérance, Lévi et Goliath de Gérard Houry, où il composait un sacré personnage de travesti. Car le tournage fut difficile pour Briali. Humilié par une bande de badauds qui se moquèrent de lui et des autres travestis du film. La tolérance, ça marche mieux, hélas, au cinéma. Et on arrive en 1987 et à ce film magnifique qui lui valut enfin un César. Du second rôle, certes. Mais un César, c'est un César. Les Innocents d'André Téchiné avec Sandrine Bonnaire, le regretté Simon Delabrosse, décédé à 32 ans, et Abdelatif Kechiche. Dans ce film sur la jeunesse, qui dénonçait déjà la montée de l'extrême droite en France, Briali incarne un chef d'orchestre un peu raté, homosexuel, mais marié. Il est bouleversant.
J'ai besoin de 500 balles, je suis parti vite. J'ai oublié mon fric.
Je ne sais pas.
Pourquoi tu veux 500 balles ?
J'ai envie de sortir.
Tu ferais mieux d'entrer à la maison.
Non, ce soir, je veux me marier. Je suis pas fait pour être moine.
Dis donc, tu vas pas retourner au Mexico avec cette racaille.
J'aime pas que t'insultes mes copains.
Je vais me gêner.
Vas-y pour voir.
Ils sont des minables. Des connards, des salauds.
C'est vrai. Moi aussi, je suis un connard et un salaud.
C'est pas vrai. T'as beau essayer d'être comme eux, t'y arriveras jamais. Alors pourquoi tu te forces ?
Je sais pas. Peut-être à cause de toi. C'est toi qui m'as appris à aimer les ordures. La seule différence, c'est que je couche pas avec. Je voulais pas te vexer. Je suis pire que toi. J'ai fait des trucs plus dégueulasses.
Qu'est-ce autre chose que la vie des sens ? Qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. De l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. Je m'en fous, ta gueule, laisse-moi finir. L'âme flottant, toujours incertaine, entre l'ardeur qui se renouvelle, l'ardeur qui se renouvelle, et l'ardeur qui se ralentit. L'ardeur qui se renouvelle, et l'ardeur qui se ralentit. Oh, je m'en fous. Mais dans ce mouvement perpétuel, de l'appétit au dégoût, de l'appétit au dégoût, et du dégoût à l'appétit. On ne laisse pas de se divertir par l'image d'une liberté errante. Tu sais de qui c'est,
non ?
Bossuet.
Bravo, c'est notre raison funèbre ?
Ah non, parce que moi je suis assez cynique pour en faire ma ligne de conduite.
Oh, t'es dégueulasse ! Dégueulasse, mon vieux !
Ouais, ouais, un peu amnésique sur les bords, hein ? Voilà où ça mène. Un poison violent, c'est ça l'amour. Un truc à pas dépasser la dose, c'est comme en bagnole. Au compteur 180, à la borne 190... Effusion de sang. Voilà, je te donne un conseil. Tu tiens ta peau. Laisse tomber.
Je cours après une ombre, tu vois. Et c'est même pas la mienne. Encore elle serait sur les colonnes Maurice. Je pourrais l'attendre à l'entrée des artistes. Mais elle est insaisissable. Où veux-tu que je la trouve ?
Oh. Si Armstrong Jones, il fallait pas faire de la photographie.
Oh, toi t'es écœurant. On peut pas discuter avec toi. Tu prends toi la blague.
Oh, erreur. Erreur, justement. Un de ces quatre, tu verras. Tu m'en rendras raison. Écoute. Quand tu en auras marre, j'ai une petite pour toi. Complètement demeurée. Mais tellement esthétique
fatigue pas, va. Allez, salut.
Jean-Claude Brialy et Serge Gainsbourg, un poison violent, c'est ça l'amour.
On se fait des films sur France Inter.
On se fait des films avec Jean-Claude Brialy. Dans les années 90, Brialy a 60 ans. Et sa fête d'anniversaire ne ressemble évidemment pas à la nôtre. Un truc de dingue, sur un bateau-mouche privatisé où, surprise, l'attendaient plus de 250 invités portant des loups et des masques de théâtre. Derrière les masques qui tombaient au fur et à mesure, si on vous fait la liste complète, nous y serons encore demain, mais en vrac, Michel Morgan, Claudia Cardinal, Lynn Renaud, avec laquelle il lutta beaucoup contre le sida, Michel Legrand qui se mit au piano, Barbara l'appela en direct pour chanter pour lui, et Catherine Deneuve aussi, même si elle était retenue aux Oscars. Sans compter Alain Delon, qui l'appela des Pays-Bas. En 1990, aussi, il tourne dans un grand film de Claire Denis, où il est proprio de boîte de nuit, qui engage un entier et un Africain pour organiser des combats de coqs. Brialy dans la jungle urbaine et mercantile, en patron élégant et interlope, il est excellent.
Bah t'en prends pas, toi. Ah, Jocelyn, ta mère, elle était belle. Vraiment belle. La beauté sur terre. Et des fois, je la regardais comme ça. Pour rien. Elle m'aurait fait traverser l'île sur les mains. Elle faisait rigoler. Il n'y avait pas de prise sur elle. Puis des fois, elle me faisait la gueule comme ça toute la journée. Et puis, elle était là. Elle me foutait en l'air. Elle me foutait en l'air. Rien qu'à me reluquer. T'as hérité de ces putains d'yeux.
Ah bah ces yeux, il y en a que pour eux, ça fait des années que ça dure. Un jour, t'as dit à ma mère, plus vite tu te débarrasserais de nous, mieux ça irait. J'ai pas oublié.
L'un de ses derniers beaux rôles au cinéma fut celui de Coligny, en 1993, dans La Reine Margot, de Patrice Chéreau. Son dernier rôle se fut à la télévision. Un très grand rôle, celui du poète Max Jacob, juif converti, mystique et homosexuel, dans Monsieur Max, de Gabriel Aguillon. Brialy était déjà malade, mais il n'en avait parlé à personne. Même pas à ses amis les plus proches. Malade ? Quelle faute de goût ! Pourquoi ennuyer ses amis avec ça ? Et puis, il avait tout préparé. Le legs de son château à la municipalité de Montyon, mais avec la promesse que son compagnon, depuis de nombreuses années, Bruno Fink, continue à y habiter. Et même sa tombe. Un jour qu'il se promenait au cimetière Montmartre, où sont enterrés Sacha Guitry, Louis Jouvet, François Truffaut, il va se recueillir sur la tombe de Marie Duplessis, la dame aux camélias. Le conservateur du cimetière lui propose « Vous ne voulez pas acheter la concession d'à côté ? Elle est à vendre. » Brialy, tout de même, trouve cela un peu prématuré. Et puis si, finalement. Quelle merveille de dormir à tout jamais à côté de la dame aux camélias. De plus, la concession voisine, encore voisine, elle aussi est à vendre. Brialy aime son confort. Il achète donc les deux concessions, 2 mètres pour se reposer, et le jardinier du cimetière lui promet qu'il entendra la belle tousser. Et puis comme ça, il est sûr peut-être que tous les amoureux de la courtisane passeront aussi devant lui. Encore plus de chance qu'on se souvienne de lui.
Vous savez, je ne connais personne qui veuille qu'on l'oublie aussitôt mort. On a tous l'envie, non pas d'avoir une rue, une place ou une statue, mais simplement que quelque part, d'ailleurs c'est la façon de prolonger la vie des gens qu'on aime. Moi je pense souvent aux gens qui sont plus là aujourd'hui, et j'en parle très souvent. On me dit que je radote un peu avec mes vieilles histoires, mais c'est une façon de les garder présents. Et si quelque part, dans 50 ans, quelqu'un se souvient encore d'un acteur qui vous a distrait, amusé ou ému, c'est une façon de vivre encore un peu plus longtemps.
Au paradis des acteurs, Jean-Claude Brialy va être débordé, comme d'habitude, avec tous ses artistes, ses copains qui l'attendent. Il va créer des festivals, il va ouvrir un théâtre, il va monter un restaurant, il va organiser des dîners. Ses grandes copines aussi l'attendent. Et il va avoir l'embarras du choix. Ce dandy, homo, mais qui aimait tant s'imaginer marié avec des étoiles.
Le mariage.
Eh bien, Sophia Loren a eu un enfant, donc c'est râpé. Moi, j'aimerais bien épouser... J'aurais bien épousé Julie Christie, vous voyez.
Mais vous avez failli épouser Anne de Hatt, je crois, au début.
Ah oui, non, mais au début... Oui, non, j'ai eu trois mariages comme ça manquait. C'était Anne de Hatt, Pascal Audrey, et puis j'aurais bien aimé épouser Françoise d'Orléac. Alors, je me dis qu'un jour, il va arriver une... Et Jeanne Moreau aussi, j'étais très, très amoureux de Jeanne. Alors, je vais vous dire, s'il y a une jeune fille qui a 18 ans, qui est belle, qui a une grosse dot, eh ben, elle téléphone...
Oui, par exemple, si Jeanne Moreau ou Annie Girardot avaient la bonne idée de vous demander votre main, tout à fait d'accord.
Oh là là, je signe tout de suite.
Il avait tout prévu, on vous dit. Même un petit conseil avant de partir.
Jean-Claude Brialy, on vous dit séducteur. Est-ce que vous vous prenez pour un séducteur?
Mais je suis un séducteur. Moi, je crois que pour séduire les femmes, il faut les faire rire.
Vous avez des secrets?
Je ne peux pas vous les donner, puisque ça serait plus un secret. Mais je crois que, vous savez, pour faire ce métier, il faut être séducteur. Michel Simon est un séducteur. Alors, on est tous des séducteurs, les acteurs.
Le physique importe peu.
Aucune importance. Ce qui est important, voyez-vous, je vais vous le dire avant de partir, c'est de ne pas être imbécile, d'avoir de l'esprit, et surtout, mais surtout, de ne pas se prendre au sérieux.
Ne pas se prendre au sérieux. Savoir jouer entre vérité et mensonge. Quitte à s'égratigner soi-même pour la beauté du jeu. Devant la caméra d'un grand tel que Bertrand Blier, quand il lui demandait de jouer le rôle de Brialy dans Les Acteurs.
Tu sais que des chiens comme mec, j'en ai connu des chiens, mais alors toi, t'as décroché le pompon, hein. Tu te rends compte s'il y avait eu un paparazzo? Dans quel état serait ta carrière?
J'ai envie que tu me fasses un cadeau.
Oh, voilà qui veut un cadeau maintenant. Et pourquoi ça, un cadeau?
Pour me consoler.
Alors, un petit cadeau.
J'aime pas ce qui est petit, je préfère rien.
Oh, mais quel boulet, mais quel boulet. T'es bien assez gâté comme ça.
Gâté par quoi? Gâté par qui?
Par la vie.
Espèce de vieux pédé. Je te demande pardon, Jean-Claude.
Je vais te demander un truc, mon pépère. Tu es gentil, tu me respectes. Je suis ton aîné. 15 ans, c'est pas beaucoup, mais je suis tout de même ton aîné. J'ai connu Marlène Dietrich. J'ai failli connaître Sacha Guitry. J'étais vedette avant toi. La nouvelle vague, t'en as entendu parler? Toi, tu montes. Moi, je descends. C'est normal. Ça fait 50 ans qu'ils se farcissent ma gueule. Alors, ils commencent à en avoir marre. Elle est toujours là, ma gueule. Elle joue encore des maris, des banquiers, des avocats foireux. Il n'y a pas de quoi être fier, mais il n'y a pas de quoi avoir honte. J'accepte tous les rôles. Il n'y a qu'un rôle que j'accepterai jamais. C'est de jouer un PD.
Oui, mais tu m'encules quand même.
Au paradis, surtout, Jean-Claude Brialy continuera à raconter des anecdotes. Ce genre d'histoire où il reste, là vraiment, pour toujours, le premier.
Mais je tournais à Rome, un film, et Ava Gardner aussi. Walter Chiari venait de la quitter, elle était très malheureuse. Et Ava Gardner était une femme de feu et de flamme. Elle était très, comme ça, elle aimait boire, et en même temps, elle aimait l'amour. Elle était vraiment une femme qui avait un tempérament. Et elle avait 40 ans, elle était la beauté même. Moi, j'avais 25 ans, j'étais dans un dîner, elle m'a regardé, elle m'a repéré. Et puis elle m'a fait venir près d'elle, et comme mon anglais était très approximatif, elle m'a entraîné, et nous avons une histoire pendant 3 semaines. Mais c'était une histoire comme ça. Et je me rappelle qu'en allant dans la chambre d'Ava Gardner, je me disais la tête de Delon et de Belmondo. La tête de Delon et Belmondo.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine.
Cette émission a été préparée par Lorraine Bess, Clara Marliot et Isabelle Olivier. À la technique, Nicolas Slimani, à la réalisation, Étienne Bertin, à la programmation musicale, Muriel Pérez.